Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et je pense que le Seigneur va nous bénir ensemble parce qu'on est là sous son regard et qu'on va se pencher surtout sur la Bible, César, Dieu, Kepha. Ça fait un passage des Écritures. Alors, vous avez vu l'écran, c'est peut-être pour faciliter la lecture des uns des autres ou la prise de notes au niveau des références. Voilà, César, Dieu, quelque part, ça fait référence à un texte de la Bible, et j'aimerais que cet après-midi, là, pendant quelques minutes, eh bien, on puisse se promener, faire une petite promenade dans ce texte et dans d'autres. Hein. La Bible, c'est un paysage qui est riche, c'est un paysage de plaines, de montagnes, de rivières, de déserts, parfois, mais qui refleurissent. C'est si fantastique. Alors, excusez-moi si de temps en temps, moi, je suis un homme de la nature, j'ai travaillé longtemps dans les forêts, j'aime prendre les petits sentiers détournés, mais on reviendra quand même sur le sentier principal et j'espère que d'ici une bonne demi-heure, on sera arrivé au bout. Voilà. Tout d'abord, ce texte de Marc, chapitre 10, versets 13 à 17. Est-il permis, c'est cette question qui est posée par des pharisiens, par des hérodiens, et qui veulent surprendre Jésus, qui veulent lui tendre un piège. Alors il lui pose cette question, est-il permis ou non de payer le tribut, l'impôt à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. D'une façon plus littérale, on aurait pu aussi dire, et si vous prenez la Bible en interlinéaire, vous verrez que l'ordre des mots est celui-ci, les choses de César, rendez à César, les choses de Dieu, à Dieu. Et il est ici question des choses de Dieu et des choses de César. Et c'est pas pour moi, ce n'est pas une division entre nous. Il n'y a pas de séparation. Ces choses, elles sont en nous. Il y a en nous des choses de Dieu, il y a en nous des choses de César. Et les choses de César, on va le voir aussi, ce sont les choses de Dieu. On ne peut pas faire de séparation. J'ai choisi d'échanger les alliances avec ma femme. On a choisi de le faire à la mairie. Et ma belle-mère, ça l'a choqué un peu. Hein. Elle dit, mais comment Didier, c'est à l'église qu'on se marie. Je lui ai dit, non, c'est pas à l'église qu'on se marie. On se marie à la mairie. Elle m'a dit, mais comment? Mais à la mairie, Dieu est dans l'église. Je lui ai dit, non, Dieu est aussi dans la mairie. Et quand devant le maire, on se promet assistance, on se promet mariage, eh bien c'est devant les hommes, c'est devant la société, c'est devant les témoins, les amis, c'est devant la famille. C'est devant Dieu aussi qui est présent, et c'est devant le diable aussi qui est là, mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de différence dans notre vie entre ce qui est de Dieu et ce qui est de César. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses, là, la Bible nous dit qu'il y a des choses qu'il faut rendre à l'un, et il y a des choses qu'il faut rendre à l'autre. Alors on va avancer un peu si vous le voulez, et on pourrait voir ces choses, tout d'abord rendre les choses de César. On pourrait les voir à la lumière de ce texte de la Genèse, Genèse chapitre 14, versets 17 à 23, je n'ai pas tout écrit ici. Vous savez, c'est quand les rois de Sodome et d'autres rois sont allés attaquer les villes où résidait notamment Lot, et ils ont enlevé Lot et sa famille, et aussi les habitants de Sodome, et ils sont partis. Et Abraham, à la tête de ses troupes, s'est lancé à leur poursuite, et a gagné, il était victorieux, et il a délivré les prisonniers, Lot, sa famille, mais aussi les habitants de Sodome. Alors ce texte nous dit qu'à un moment, deux rois se sont approchés d'Abraham. Le roi Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, on sait que dans le livre des Hébreux, il nous est parlé de ce roi dont Jésus, qui est un type de Jésus, pourrait-on dire. Il était sacrificateur du Dieu très haut et il a béni Abraham. Il s'approchait de lui avec du pain et avec du vin. Et Abraham a rendu à cet homme, à ce roi de paix, là on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais je laisse ça sur votre méditation, il lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Il a rendu à ce roi de paix ce qui lui revenait. Mais il nous est dit aussi que le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Et j'aimerais peut-être prendre ce texte dans un premier temps pour dire les choses de César. Il y a des choses qu'il faut rendre à César, mais dans le sens péjoratif de César, dans le sens de César qui peut représenter la mondanité, qui peut représenter tout ce qu'il y a de négatif, toutes les valeurs malsaines, tout ce qu'il y a de malsain dans cette société. Et je crois que ces choses, elles veulent nous dire aussi qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des choses, il faut nous en éloigner. Il y a des choses, il ne faut pas les toucher. Et ici, on voit Abraham, il dit, mais je ne mène pas de toi un fil. Mène pas de toi un cordon de soulier, un lacet. À quoi ça sert, un lacet? Je sais que nous, les messieurs, on en a des lacets, on les garde. Hein. On se dit toujours, ça va servir à quelque chose. Hein. Et on a un salé, un lacet bleu, un lacet rouge, un marron, des grands, des petits, des épais, on n'arrive pas. Et quand on a besoin de mettre ça à une paire de chaussures, on n'y arrive pas bien souvent. Hein. Ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose. Un fil, on en fait de quoi un fil? C'est rien du tout. Mais Abraham, il dit, je te rends ça, roi de Sodome. Je veux rien de toi, pas une poussière, pas un lacet, pas un fil. Pourquoi? Parce que je crois, et là je vais imaginer les choses un peu, je crois que ce fil, il peut devenir une corde. Ce lacet peut devenir quelque chose qui va grandir, qui va s'épaissir, qui va s'enrouler, qui va au moment ou l'autre lier Abraham. Et je ne veux rien de toi, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, dans le sens de tout ce qui est malsain et de tout ce qui est négatif. Et je crois que rendre à César ce qui est à César, il y a aussi de ça dans notre société, dans notre monde. Eh bien, pas de compromis avec ce qui est négatif, ce qui est malsain. J'en veux pas. Ne pas se laisser corrompre par cette société dans ce qu'elle a de négatif. Hein. Je ne veux pas critiquer la société. Moi, je vis dans la société. J'aime la société. Et on est appelé à vivre en société. Mais il y a des choses dont il faut s'abstenir. Vivre sa vie dans la société sans que ma joie et mon bonheur en dépendent de façon absolue. Je crois que là, il n'a pas besoin de ces richesses-là, Abraham. Ce qu'il dit, mais les richesses, elles me viennent de Dieu. Mes richesses à moi, elles me viennent de Dieu. C'est lui qui me donne. Et même de ce qu'il me donne, je redonne la dîme, je redonne 10% à ce roi de paix, à ce roi de Salem, parce que c'est Dieu qui m'a béni. Mais je n'attends pas de cette société, de ce monde, le bonheur. Et mon bonheur ne dépend que de Dieu seul. Et je crois que quand on vit cette réalité, on ne peut être qu'heureux sur cette terre. Si mon bonheur ne dépend que de ma relation avec le Seigneur, que de ma relation avec Dieu, eh bien je vais être quelqu'un qui va vivre heureux. Je vais être comme un arbre planté près des courants d'eau. Qui est-ce qui peut m'empêcher d'avoir cette relation avec Dieu? Le seul, c'est moi. Dieu est ouvert. Tout ce poids de ténèbres qui est autour de nous ne peut pas m'en empêcher si moi je le veux. Donc dans un premier temps, voilà, la Bible nous dit chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a des choses qu'il faut rendre parce qu'elles ne sont pas, intéressantes. Mais j'aimerais aussi revenir peut-être sur ce texte. Dans le texte de Marc, littéralement, il est question de l'impôt. De l'impôt qui est dû pour le fonctionnement de l'État, et aussi pour le confort du prince. Rendez à César ce qui est à César, c'est pour que l'État romain puisse fonctionner, pour que César puisse bien vivre. Et les choses de César, c'est le droit du gouvernant sur nos vies. C'est le droit du gouvernant sur nos vies. Et Jésus a satisfait à cet ordre-là. Je donne à César ce qui lui revient pour qu'il puisse fonctionner. C'est terrible parce que l'État romain, c'est un État ennemi, c'est un oppresseur. Les valeurs véhiculées par cet État, les valeurs religieuses étaient contraires à ce qu'annonçait Jésus-Christ. Pourtant, il donne son tribut. Pourquoi? Parce que ce droit du gouvernant, il est donné par Dieu. Même à un homme injuste, même à un homme impie. Et vous savez, là je vais ouvrir une parenthèse, ces choses, pourquoi elles sont ainsi? Et quelque part, des fois, on serait à même de se révolter quand on regarde autour de nous les pouvoirs qui sont là, à la tête de certains États, on se dit c'est pas normal, il y a des tyrans, il y a des gens qui font tant de mal, il y a des despotes, mais comment est-ce possible? Comment Dieu permet-il ça? savez, ça c'est la réponse à la volonté des hommes. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme qui veut s'affranchir de la tutelle de Dieu et vivre dans la non-dépendance de Dieu. C'est ça l'histoire de l'humanité. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, tu vas, tu manges et tu vis. C'est tout simple. C'est dépendre de Dieu pour vivre. Et l'autre arbre, c'est je vais connaître et je n'aurai pas besoin de Dieu. Je m'affranchis de la tutelle de Dieu. Et l'homme dans le jardin d'Éden a choisi de s'affranchir de la tutelle de Dieu. Vous serez comme des dieux, dit le diable. Ah, ça c'est quelque chose d'intéressant. Si je suis comme Dieu, je n'aurai plus besoin de lui. Je m'affranchis de sa tutelle. Je peux vivre dans l'indépendance, dans la non-dépendance par rapport à lui. Et les choses sont allées comme ça. C'est l'histoire de l'humanité. Et on voit dans la Bible deux principes qui s'opposent, deux principes de société même qui s'opposent. Les peuples se sont rassemblés à Babel. Et là, ils ont voulu aussi se dresser vers Dieu. C'est quoi la tour de Babel ? Ce sont des hommes, c'est une humanité qui se rassemble pour se dresser contre Dieu et pour dire « Dieu, on n'a pas besoin de toi ». La tour de Babel s'est dressée. Mais devant cette tour de Babel, devant cette société qui s'oppose à Dieu, Dieu il a dit « Moi, je vais faire autre chose ». Il a suscité un peuple au travers d'Abraham, des patriarches, Moïse et le peuple d'Israël est né. Et plus tard, le diable est allé loin, ça a été la grande Babylone, ça a été la Babylone de Nebuchadnezzar. Hein, cette cité construite pour la gloire, etc. Mais à cette cité, à cette société d'esprit babylonien, il y avait aussi une autre société qui est là. Il y avait la Jérusalem de Dieu sur cette terre. La Bible nous parle de la grande Babylone, des temps de la fin. Qu'est-ce que c'est que la grande Babylone ? La grande Babylone, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes de toute une société qui s'affranchit de Dieu, qui veut vivre sans Dieu et qui le rejette. Souvent, on dit le diable, c'est un diviseur. Peut-être au départ, mais le diable, avant toute chose, c'est un grand rassembleur. Il rassemble les gens contre Dieu. Mais à cet esprit de la grande Babylone, le Seigneur oppose l'esprit de l'Église, une autre société, un autre royaume, le royaume de Dieu. Et à la Jérusalem, à la grande Babylone de l'Apocalypse s'opposera la Jérusalem céleste qui s'imposera. Cette histoire société, Dieu a permis à l'homme de vivre ces choses, de les faire. Et on voit aussi dans l'histoire du peuple élu, du peuple d'Israël, quelque chose de significatif. Ce peuple qui est voulu par Dieu, ce peuple qui est créé par lui, ce peuple qui est conduit par lui, qui est gouverné par lui, au travers des patriarches, des prophètes comme Moïse, Josué qui conduit le peuple dans la conquête, les juges, Dieu est leur maître, Dieu est leur gouvernant. Et qu'est-ce qui se passe à un moment ? À un moment de leur histoire, ils disent... On veut être comme les autres. Nous voulons un roi. Nous voulons un roi pour nous gouverner. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira ». Ils veulent un roi, hein ? Écoute-les, ils veulent un roi, on va leur donner un roi. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. C'est terrible. Ils rejettent l'autorité de Dieu. Pourtant, c'est le peuple élu. Ben, le Seigneur va leur donner un roi. Vous voulez un roi, vous aurez un roi. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Notre société est ainsi organisée. C'est selon la volonté de Dieu, ce sont les principes de Dieu. Et Dieu a établi des hommes, des autorités pour les gouverner. Ils sont néanmoins suscités par lui et contrôlés par lui. C'est ce qu'on voit concernant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, voilà. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est hors des saints. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui lui plaît et qui élève le plus vil des hommes. Nebuchadnezzar a dû apprendre ça. Il était grand, il était puissant, mais c'est Dieu qui l'avait mis en place, il a fallu qu'il le comprenne. Et les gouvernants, c'est ça. Ce gouvernement que nous avons, c'est des choses qui sont voulues par Dieu. Pourtant, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que ce droit du gouvernant, il sera pesant. Il sera contraignant, il aura un coût élevé. C'est ce que Samuel explique au peuple d'Israël. Voilà, je ne vais pas vous le lire. Hein. Ce roi, il va vous prendre vous pour vous faire entrer dans vos armées. Il va vous prendre de votre argent pour son faste, pour ses conquêtes. Il va avoir besoin de vous et pour ses travaux. Et il prendra la dîme de vos troupeaux. Vous serez même ses esclaves, dit-il. Hein? Et il décrit un joug pesant, quelque chose de contraignant. Et eux, ils disent non. Non, verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Voilà, le joug est parfois, le droit du gouvernant est parfois pesant. Et Jésus nous le rappelle aussi. Jésus nous le rappelle. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, dit-il. Hein, ça, c'est Jésus qui le dit. Et. C'est quelque chose qui décrit la traduction de Parole de vie, où dit, vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. On voit que l'autorité qui est là, elle est pesante. Pourquoi ? Parce que c'est l'autorité des hommes. Et ce n'est pas toujours l'autorité d'hommes très éclairés. Pourtant, dans les épîtres, la Bible établit le principe de la soumission aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez l'impôt. On voit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Moi, ça me bouscule quand je lis ça, et quand je regarde l'histoire, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible ? Mais mon explication, elle est là. C'est la conséquence de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est la conséquence d'une révolte de l'homme par rapport à Dieu et d'un choix d'indépendance. Et on a les gouvernements qui sont dans cette logique de pensée. Le Seigneur nous demande néanmoins donc d'être soumis aux autorités. Il n'y a pas d'antagonisme entre être chrétien et être en contact avec le monde politique. Quelques-uns, même des Asiarques qui étaient les amis de Paul, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager. C'est Paul dont il est question. Il avait des amis qu'on appelait des Asiarques. Un Asiarque, c'est quoi ? C'est le président de l'Assemblée provinciale de l'Asie. C'était des responsables politiques de l'époque. Et ces gens-là, ils prennent intérêt à la sûreté de Paul. Ils sont peut-être pas chrétiens, mais ils ont eu l'occasion de le voir, de l'entendre, et ils sont attachés à lui. Ils ont de l'estime, de l'affection pour Paul. Et Paul peut dire, ce sont mes amis. Ces hommes politiques, ces responsables politiques, ce sont mes amis, et je suis leur ami. Il n'y a pas de... d'antagonisme entre ces choses-là. La Bible aussi nous exhorte à prier pour nos gouvernants. Hein? Prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Mais pourquoi prier ? Pour qu'ils se convertissent, je pense, que leur vie soit touchée par Dieu, c'est une évidence, mais aussi afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et je crois que, voilà, ça c'est les recommandations moi, que j'ai trouvées un peu dans la parole par rapport à nos gouvernants, par rapport à César. J'aimerais dire ceci, c'est que le croyant doit remplir comme tous les autres ses devoirs de citoyen, rendre à César ce qui est à César. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un sens négatif, mais là c'est dans quelque chose de très positif. Ces autorités, elles sont instituées par Dieu. Le Seigneur nous demande d'être soumis, de prier pour elles, d'avoir des liens. Et je crois que nous avons des devoirs de citoyens. Et ces devoirs, ce sont quoi ? Tout d'abord, on l'a vu tout à l'heure, nous avons un devoir de soumission aux lois qui sont en vigueur. Mais nous devons aussi, je pense, avoir un devoir de proposition. Ça fait partie de nos rapports avec les gouvernants, avec César. On doit être capable de proposer, de participer au vote, faire des propositions. On a même un devoir d'opposition dans le cadre légal. Moi, quand j'étais jeune converti, je ne sais pas comment ça se passe dans les milieux protestants, mais chez nous, enfin, surtout pas se mettre en grève. Hein. Je me disais, moi, attends, si la grève est juste, si on est là et qu'on nous maltraite, qu'on ne nous donne pas le salaire qu'on a en droit de recevoir, c'est injuste. Alors j'ai la possibilité de dire c'est injuste. Dans un cadre légal, j'ai la possibilité de dire je ne suis pas d'accord. Et moi, ça m'est arrivé de prendre la parole devant des auditoires de plusieurs centaines de personnes et le député qui était là, le grand responsable qui était là, qui voulait nous faire avaler une pilule qui était un peu amère, bon, on lui expliquait les choses avec beaucoup de douceur, de fermeté, de douceur. On peut dire les choses, mais il faut les dire avec cet esprit bien disposé. C'est un devoir aussi, puis un devoir de participation dans le domaine social. On doit être des exemples aussi de justice. Il y a des textes qui nous disent mais que maître, traitez bien vos employés, et employés, soyez soumis à vos maîtres. Mais maître aussi, traitez bien, montrez ce que c'est que de bonnes relations. Hein? Et on va imprégner cette société. Néanmoins, la Bible, elle fixe une limite. Elle fit une limite à cette soumission. Pierre et Jean leur répondirent, on leur interdit de parler de la part de Dieu. Et voilà, est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dirent-ils plus tard, lors d'une deuxième persécution. Parfois, l'insoumission, c'est une vertu aussi. Les lois sont là, et Seigneur nous dit, il faut être soumis. Mais je crois que parfois, l'insoumission, c'est une vertu et même une prise de position nécessaire. Ici, en l'occurrence, il est question d'une interdiction de témoigner. Et il dit ça, non, parce que Dieu nous a dit de témoigner. Et ça, on ne pourra pas. On ne peut pas, parce que c'est là notre vocation. Si on est encore ici, sur cette terre, c'est pour témoigner de Jésus. Alors vous pouvez nous interdire, mais on le fera quand même. Sommes désolés, mais nous le ferons quand même. On a entendu le témoignage d'un pasteur au Vietnam qui, le jour de son mariage, s'est marié avec son épouse. Ils sont allés dans la tribu des Hmong, je crois, une tribu de montagne. Et ils sont allés là-bas pour prêcher l'évangile et pour annoncer l'évangile. Et au bout d'une journée de leur voyage de noces, ils se sont retrouvés en prison. Et ils étaient là avec sa femme. Il a dit, tu me pardonnes, tu m'en veux pas. Excuse-moi, tu vois, quel voyage de noces je t'offre. Et ils sont restés 3 jours comme ça. Et le troisième jour, ils sont sortis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont dit, on nous a interdit de parler ici, dans ces villages, alors on va aller plus loin. On va aller plus loin, et on parlera de Jésus. Et ils sont allés, et encore une fois, ils ont été arrêtés là-bas. Mais cet homme, quand vous l'entendez parler, quelle foi, quelle fraîcheur. Mais maintenant, au Vietnam, beaucoup de choses aussi ont changé, parce qu'il y a eu des hommes comme ça, qui ont dit, on nous interdit, mais on parlera quand même. Je pense aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, des hommes, des femmes qui ont été mis devant leurs responsabilités, la loi était là, le gouvernement était là, les gouvernants étaient là, mais ils ont su résister, ils ont su accueillir ceux qui étaient persécutés, ils ont enfreint des lois, et quelquefois, voilà, on en a amené aussi à ça. Mais je crois que là, il faut faire attention, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle aussi et de justice, à vous d'en juger. Où est la frontière entre obéissance à Dieu plutôt qu'à de mauvaises lois ? Et désobéissance à Dieu en ne se soumettant pas à quelque chose d'injuste, mais de supportable aussi. Il y a des choses, elles sont injustes dans notre société, mais on les subit, et voilà, on les accepte, et c'est comme une pluie violente qui tombe sur nos épaules, mais on prend sur nous. Et quand on prend position, je crois qu'il faut aussi assumer ses responsabilités. Voilà, ça c'est rendre à César. J'aimerais aller plus loin. Les choses de Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. On pourrait dire bien des choses, hein, mais je vais dire la première des choses qu'on a à rendre à Dieu, c'est notre vie. C'est notre vie. C'est lui rendre cette vie qu'il nous a donnée, et maintenant dire, Seigneur, c'est à toi que j'appartiens, c'est toi que je veux suivre. Mais quand on est chrétien, ça implique, ça induit un mode de vie. Jésus a fait référence à la loi de Moïse. Il a fait référence à la loi de Moïse et il est allé beaucoup plus loin que la loi de Moïse. Souvent dans nos maisons, on met les 10 commandements. Et moi je dis, ce n'est pas les 10 commandements qu'on va mettre dans nos maisons, c'est Matthieu 5. Parce que le Seigneur, il va beaucoup plus loin que ça. Les 10 commandements disent, tu ne tueras point. Mais Jésus lui dit, si tu dis imbécile, si tu penses, tu es aussi coupable que ce que tu as fait. Ce que je veux dire simplement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est que notre foi, notre attachement à Jésus-Christ, ça implique un type de comportement. Et notre appartenance à Dieu, ça a des implications directes dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, et même dans notre vie politique, nos rapports avec la famille, avec les autres. Les lois qui nous gouvernent, elles vont être en contradiction avec ce qu'on croit ou ce qu'on accepte. Mais là, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que Jésus descend, il dépasse un simple comportement. Et il se place sur un plan moral et spirituel encore plus élevé. C'est la pensée dont il est question. Ne pas tuer, on arrive à le faire. Je ne sais pas vous, mais moi jusqu'ici j'y suis arrivé, je pense que j'y arriverai encore. Avoir envie de tuer, peut-être certains, les meilleurs, avoir envie de prendre quelqu'un par la cravate et de le secouer, que celui qui n'a jamais pensé me jette la première assiette ou la première serviette. Hein, c'est jamais. Parce qu'il y a des choses, c'est quand même là, hein. Et je crois que le pire des révélateurs, c'est quand on conduit en voiture. Si on mettait des magnétophones dans les voitures, si on mettait des mégaphones, vous voyez, ce qui se dit dans la voiture, c'était projeté au dehors, ça serait pas beau. Ça serait pas beau, croyez pas. Hein, des fois, rien qu'à voir les visages, mais des fois, est-ce que nous, on n'a pas ces visages-là? Ça, c'est dans le cœur. Comment je peux contrôler ma main? Je peux tenir ma main. Je peux la tenir, ma main. Mais je peux rien faire si je tiens ma main. Si ma main gauche tient ma main droite ne peut rien faire et ma main gauche non plus. Et je suis impuissant dans la vie. Si mon cœur est changé, si ma main ne se tend plus vers ce qu'elle convoite, si je n'ai plus envie de convoiter telle chose, je n'ai pas besoin de retenir ma main. Et mes deux mains sont libres. Et je peux jouir de la vie et utiliser mes deux mains pour faire des choses extraordinaires. C'est le cœur, c'est la pensée. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire dans nos cœurs et dans nos vies. Alors il y a ce que Dieu nous demande de faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Dieu nous demande de faire des choses, mais on est bien incapable de les faire. Et la seule possibilité, c'est qu'il change notre cœur et notre vie pour qu'on devienne capable de vivre la loi de Dieu et ses exigences. Cette loi, néanmoins, la Bible nous dit qu'elle est inscrite dans la conscience humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle est un principe même de vie. Les 10 commandements, vous réfléchirez là-dessus, tout tourne autour de la vie. Respectez, aimez celui qui a donné la vie, le Père éternel. Respectez les parents qui transmettent la vie que Dieu crée. Respectez la vie, ne pas tuer. Respectez ce qui maintient la vie, ne pas voler, etc. Tout tourne autour de la vie. Le Seigneur, c'est le Dieu de la vie. Et il nous donne des règles de vie pour qu'on vive bien, pour qu'on vive heureux. Mais le cœur de l'homme est tortueux et on a du mal à vivre ces choses. Néanmoins, ces choses sont quand même inscrites dans le cœur de l'homme. Alors, quelques réflexions sur ce point-là. Cette loi, si cette loi est pour le croyant la référence suprême, cette loi de Dieu, ces principes de vie qu'on trouve dans la Bible, que Jésus a exprimé, qu'on trouve dans les épîtres, dans les évangiles, cette loi, elle ne peut pas être imposée à la société. On ne peut pas l'imposer. Moi, c'est mon avis, on ne peut pas l'imposer à la société. Pourquoi ? Parce que déjà, ceux pour qui elle a été donnée, le peuple élu, eh bien, pour elle, pour eux, cette loi, elle était le révélateur de leur incapacité. Tout simplement. La loi donnée, elle met en évidence l'incapacité à vivre le commandement de Dieu. Et alors, pour les autres, qui n'ont pas cette relation privilégiée, ça va être quelque chose d'impossible. C'est peut-être là aussi qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. La loi, elle est bonne, mais l'homme était incapable de la vivre par ses propres efforts. Il peut seulement y arriver par la grâce de Dieu. Seigneur, je te rends ce qui te revient. Moi, je veux vivre ta loi parce qu'elle est bonne, mais j'en suis incapable. Et ce que je te demande, c'est de faire ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie pour que j'en sois capable. La grâce et la loi, il n'y a rien d'inconciliable. Partir de la loi pour arriver à la grâce, à la volonté de Dieu, on n'y arrivera pas. Mais si on commence par la grâce, elle va faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies pour nous amener à pouvoir vivre la loi de Dieu. Rendre à Dieu, autrement dit, c'est rendre à Dieu la reconnaissance du fait que lui seul peut nous conduire à vivre droitement. Reconnaître que lui seul peut nous conduire à vivre droitement par un changement intérieur que lui seul peut produire. Seigneur, mais quel rapport avec la société ? On ne peut pas imposer nos valeurs à la société. Moi, j'ai des valeurs chrétiennes, j'ai des valeurs élevées, mais je sais qu'il y a des choses, je peux les vivre. C'est parce que Dieu me fait grâce. La sanctification, elle nous vient aussi de Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui change nos cœurs. C'est Dieu qui change nos pensées. C'est Dieu qui remet de l'ordre dans nos pensées pour nous rendre capables de vivre certaines choses. Pour être capable de tendre la joue gauche après qu'on nous ait tapé sur la joue droite, il faut que le cœur il soit changé chez quelqu'un qui était colérique, quelqu'un qui était normal, on va dire même. Et surtout, vous savez, là j'ouvre peut-être une petite parenthèse, tendre la joue gauche quand on a frappé la joue droite, ce n'est pas un signe de lâcheté. Jésus, on l'a frappé sur la joue droite, il a tendu la joue gauche. Mais Jésus, après qu'on l'ait frappé sur la joue droite, il aurait pu, d'un claquement de doigts, pulvériser, anéantir ceux qui étaient là. Il avait ce pouvoir et cette force. Et il a tendu l'autre. Il n'a pas usé de son pouvoir. Il n'a pas usé de sa force. Il a dit, allez, vas-y, tu tapes sur l'autre si tu veux. Et c'est au contraire un signe. C'est celui qui est fort. C'est celui qui est fort, qui est capable de faire ces choses-là. Mais je ferme la parenthèse. Où est l'essentiel pour nous dans notre société? Où est l'essentiel pour nous dans notre société? Est-ce que c'est arrivé à ce que la société des lois, les plus proches possibles du modèle divin, il y a César, il y a Dieu, et Seigneur, on veut que cette société vive selon tes lois. Je vais te choquer. Même si on y arrivait, qu'est-ce que ça changerait? Si le monde était meilleur avec de meilleurs gens qui vont en enfer, ça mène à quoi? À quoi ça sert notre société des bonnes valeurs si les cœurs ne sont pas changés, si les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie? Là, c'est un pasteur qui prêche l'évangile, qui vous parle, c'est vrai, c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui a cœur. Peut-on imposer à la société les lois divines? Est-ce qu'on peut imposer ces lois? Le seul gouvernement chrétien que je connaisse, c'est celui qui est à venir. C'est celui du royaume, du millénium. Et ce royaume, sa venue sera tout sauf démocratique. Ça sera imposé par la force. Ça sera dans la violence, ça sera dans l'affrontement, ça sera quelque chose de terrible. Et il sera maintenu comment, ce royaume-là, cette autorité? Parce que le tentateur sera lié. L'essentiel pour nous, pendant notre temps sur la terre, je crois que c'est quoi? Ben, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Moi, je suis assez pessimiste par rapport au changement de la société, mais je suis optimiste par rapport au changement des cœurs humains. Nous ne changerons pas la société parce que selon l'enseignement de l'Apocalypse, eh bien les choses elles iront en se dégradant, elles iront de pire en pire. Et la société, ça ira de pire en pire, voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je fais ce que je peux, je remplis mes devoirs citoyens, je dis la vérité, je proclame la vérité, je veux prendre le cadre qu'on me fixe, qu'on m'ouvre encore, je veux l'utiliser pour dire ce qui est vrai. La Bible elle nous dit d'être, vous êtes le sel de la terre, et c'est par notre présence, on peut dire les choses, on peut influencer les choses. Il y a des choses qu'il nous faut dire, donner de la saveur. Notre présence doit relever le goût de ce qui est bon dans la société. On doit montrer par notre exemple qu'il y a des bonnes valeurs. Il y a des choses qui sont belles, et vous savez, on n'a pas besoin de citer la Bible ou de citer Dieu. Il faut citer ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Parce que l'important, ce n'est pas de dire « Dieu a dit que », l'important, c'est de dire ce que Dieu a dit. Comprenez ce que je veux dire? C'est que, des fois, nous, on est là, on se sert de Dieu. Un jour, un ami est venu, m'a dit « Oh là là, j'ai rencontré un témoin de Jéhovah, je lui ai cloué le bec. » Ah, j'ai dit « T'es content ?»« Ouais. » Il dit « Ah ouais. » Ben, j'ai dit « C'est là, c'est comme si tu as pris ta Bible et tu es allé vers lui, tu lui as donné un grand coup sur la tête et tu me dis « Regarde, maintenant, il est allongé par terre, il ne bouge plus. » Puis tu mets les pieds dessus, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est pas ça l'usage de la parole. L'usage, ce qu'il nous faut dire, c'est dans notre société, peut-être avant de dire Dieu dit, on l'entend trop actuellement, Dieu dit. Les uns disent Dieu dit ceci, Dieu dit cela, il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. L'important, c'est de dire ce que Dieu dit, sans dire que c'est Dieu qui le dit. Et après, au bout d'un moment, on va dire, voilà, vous savez, la plus belle chose que j'ai entendue sur les relations entre un garçon et une fille, c'était quelqu'un qui n'était pas croyant. Et moi, ça m'a subjugué, parce que toute son argumentation, elle était extraordinaire. Ça me parlait de respect, ça me parlait de valeur de vie, de respect de soi, de respect de l'autre. Ça me parlait de valeurs bibliques, ça me parlait de valeurs divines. Et je dis, mais tout ce que cette femme dit, c'est écrit dans la Bible. Et j'ai trouvé beau. Et je crois que maintenant, moi, quand je parle à quelqu'un, je préfère, dans notre société, je vais dire ce que je pense être beau, ce que je pense être bon. Et ce que je pense être beau et bon, ça vient de Dieu parce que je suis imprégné de ces choses-là. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, voilà, être du sel sur la terre, être une lumière dans ce monde. Et je crois qu'au travers de notre présence, on peut imprégner, on peut montrer une direction, on peut montrer la vérité. Ce que doit être notre influence dans ce monde, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, enseignez-leur, observez. Je me dis, moi, c'est souvent la question que je me pose. On parle beaucoup de politique, on parle beaucoup d'élections, de ceci, les médias, on parle que de ça. Bon, il y a toujours une élection qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis sans cesse, je suis ramené à ça. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire de toutes les nations des disciples et d'annoncer sa parole. Comment influencer notre société? J'y reviendrai là-dessus. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Jésus nous donne ici un enseignement révolutionnaire sur ce qu'est la grandeur dans son royaume. Pour les chefs des nations, être grand, c'est exercer l'autorité. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui est le petit. Et vous savez, Jésus l'a influencé la société comment? À partir du bas. Il a influencé à partir du bas, pas à partir du haut. Les gens attendaient un roi, quelqu'un qui se situe en haut, un nouveau David, mais lui, il est venu en bas. Et il a influencé la société de façon extraordinaire, mais en partant du bas. En partant du bas. En amenant des individus en changement de pensée, à la nouvelle naissance, en montrant un exemple, en faisant du bien, en bénissant, sans rien attendre en retour. Jésus l'a influencé en partant du bas. Et je crois qu'il y a là un exemple pour nous. Il nous dit, voilà, celui qui va être le plus grand, mais qui soit le serviteur, qui soit l'esclave même. Et notre influence dans la société, elle doit partir du bas. Elle doit partir du bas, je pense aussi. Être un serviteur dans notre société, être un exemple. Le Seigneur aussi. Ça, c'est un verset qui est choquant aussi quand on s'y penche dessus. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Cette pensée reste dans l'argument général de l'apôtre Paul. Hein, et elle est conforme à tout l'esprit de l'évangile. Il n'y a pas de révolution. Elle était pour les esclaves une précieuse consolation. Voilà, tu es esclave, tu subis les choses. Si tu peux t'en sortir, fais-le. Mais si tu peux pas, supporte les choses et trouve quelque part ton réconfort ailleurs. C'est frustrant, hein, c'est pas l'émancipation, c'est pas la libération. Mais je crois que l'attitude du croyant dans l'injustice est avant tout de ne pas se révolter contre Dieu, de ne pas pécher, et aussi d'atteindre la justice avec des moyens que ne désapprouveront pas sa conscience. Le chrétien, c'est pas quand même un révolutionnaire. J'ai terminé en disant ceci. Là, je n'ai pas mis des textes, mais l'Église naissante s'est heurtée au pouvoir, s'est heurtée à la société, plusieurs fois, au pouvoir religieux, au pouvoir public. Il y a de nombreuses persécutions. On a vu que les apôtres, souvent, il y a toute une série de textes dans les Actes des apôtres où on voit que les apôtres sont empêchés. Plusieurs fois, ils sont mis en prison. Plusieurs fois, on veut les empêcher de parler du Seigneur. Et le gros problème dans cette société du début du christianisme, c'est le problème du prosélytisme. Et le heurt, l'affrontement entre le croyant et la société, c'est pas au niveau de la morale. La morale, elle était ce qu'elle était du temps des Romains. C'est pas mieux aujourd'hui, mais c'était peut-être même pire du temps des Romains. Hein. C'était des sociétés corrompues sur le plan de la moralité. L'affrontement, il n'était pas sur les valeurs. L'affrontement, il était sur le prosélytisme. Et à notre époque, je crois aussi que le problème, il est là ou il sera là aussi. Quand nous témoignons de Jésus, quand nous témoignons du salut en Jésus-Christ, quand nous appelons les gens même à se détourner de leur croyance, c'est ce qui se passait hein, à l'époque. Mais quand on fait ça aujourd'hui, on sème le trouble dans la société. Et la société n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on reproche aux témoins de Jéhovah? On dit c'est une secte. Les pouvoirs publics vont reprocher l'aspect argent, certains autres aspects. Mais la plupart des gens, dans l'opinion publique, qu'est-ce qu'ils reprochent aux témoins de Jéhovah? C'est qu'il y a des gens qui viennent frapper à la porte et qui viennent parler. Il y a des gens qui sont sur les marchés et qui interpellent. C'est ça qui gêne. L'argent, ce n'est pas un problème. D'autres prennent de l'argent. Le problème, c'est d'aller et de déranger. Et quelque part, la chrétienté sortera aussi à ça de plus en plus. Et pour moi, c'est un problème que les chrétiens vont vivre dans la société. Bientôt, on va nous dire, on a la liberté de culte, la liberté de conscience. Dans certains pays, c'est ce qui se passe. Mais seulement, on leur dit, reproduisez-vous entre vous. Vous comprenez? Ne cherchez pas à aller vers les autres et ne témoignez pas aux autres. Restez entre vous. Mais la vocation du peuple de Dieu, c'est pas ça. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Le combat est spirituel, mais je voudrais terminer sur ça. Donne-moi les personnes, dit le roi de Sogoth, donne, et toi prends les richesses. Les personnes, c'est ce qui intéresse l'adversaire, mais c'est ce qui intéresse Dieu aussi. Et je crois que le vrai combat, c'est pas tant l'amélioration de la société, mais vraiment le vrai combat, l'enjeu, c'est le salut des âmes. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à César ce qui est à César. Je crois que c'est, Seigneur, ma vie t'appartient. Elle t'appartient, tu l'as sauvée, elle est à toi. Mais maintenant aussi que ma vie te serve, et je réponds à cet appel. Et dans cette société, je veux l'influencer de la bonne manière, communiquer les bonnes valeurs, mais je veux surtout parler de toi et amener des gens au salut. Voilà.
Merci. Question ?
Alors, j'avais entendu cette semaine, une journée, on m'a dit c'était bien, mais c'était pas une étude biblique. Après, le lendemain, on m'a dit c'était une très belle étude biblique, mais c'était pas le sujet. Alors aujourd'hui, je suis ravi, merci Didier, car comme lundi, nous avons eu une étude, et sur le sujet, et puis on peut, s'il y a une chose qu'on peut admirer chez Didier, c'est qu'il n'est pas tiède. Voilà. Alors, pas de questions. Ah, je me disais.
J'avais lu la jeunesse, c'est très intéressant le début dans la Bible. Je suis catholique de formation.
Ouais. Vous voyez,
je suis en train de vous traiter, excusez-moi, je fais ce que je veux. Mais j'ai encore marqué deux arbres. Je n'ai que l'arbre du bien du mal.
La connaissance du bien du mal est l'arbre de la vie, qu'on retrouve d'ailleurs au moment de l'Apocalypse, on le retrouve.
Alors, j'ai lu avant-hier, hier, un truc qui m'a trouvé très intéressant. Mais quand même, Dieu, c'est un sacré provocateur pour pousser l'homme à choisir comme ça. Alors, vous mettez un arbre, voilà.
Tout à fait.
Alors, il paraît que c'est la source un peu de toutes les contes de fées, les barbes bleues et tout ça, où il y a un interdit qu'il faut, bien sûr, transgresser.
Ou ne pas transgresser. Je crois que c'est le choix. Vous savez, moi je me suis posé la question aussi, le fait que Dieu meurt sur une, que Jésus meurt sur une croix, cette attitude, hein, qu'on mette la croix avec un truc au-dessus ou pas, c'est aussi un croisement. Et on est sans cesse mis devant des choix concernant Dieu. Et je crois que le fait qu'il y ait ces deux arbres, la dépendance de Dieu, sans cesse, c'est un choix qui nous est proposé chaque instant de notre vie. On va sortir de là, on va faire des choix quant à notre foi. On va monter dans notre voiture, on va griller la priorité, ou on va se faire griller la priorité par quelqu'un et on va être devant un choix. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je dis quelque chose comme Jésus aurait dit, ou est-ce que je dis quelque chose comme ma vieille nature dirait? On est toujours devant des choix. Et Dieu, il veut qu'on l'aime par choix. Moi, je trouve que ces deux arts, ils sont là. La dépendance de Dieu, si elle nous est imposée, c'est de l'esclavage. Si elle est choisie, c'est de l'amour. On voit dans l'Ancien Testament les esclaves qui étaient libérés, ils avaient le choix de rentrer chez eux, mais celui qui voulait rester attaché à son maître, il mettait le lobe de l'oreille sur la porte, on le poinçonnait, et ça voulait dire je resterai à demeure dans cette maison parce que je suis bien. Il y avait un choix.
Vous avez cité le verset à la fin de Matthieu, « Faites de toutes les nations des disciples,
ouais.
Et je passe à enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si je comprends bien ce que vous avez dit, On ne peut pas enseigner à quelqu'un à observer quelque chose si on ne l'observe pas soi-même d'abord. Donc c'est ça notre première façon de témoigner.
Tout à fait. Ouais, moi il me semble, c'est nos convictions. Si on ne les vit pas, on ne peut pas demander aux autres. Mais je crois qu'aussi dans ce passage, enseignez-leur à observer, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas les faire si on n'est pas passé par la conversion, si on n'est pas devenu un disciple. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc moi il faut que je sois un disciple, parce que ce que je vais dire, ça va avoir de l'impact. Hein? Mais je dois amener les autres vont être capables de vivre certaines valeurs, les valeurs chrétiennes, s'ils sont nés de nouveau. C'est ce que Jésus, il fait le reproche aux pharisiens, il leur dit, mais vous faites porter aux autres des fardeaux que vous n'êtes pas capables de porter. Pourtant, la loi, elle était bonne. Hein? Mais il disait, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Jésus dit, mais faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. Hein? Ça nous parle aussi d'une transformation intérieure. Mais c'est vrai que nous, il faut qu'on soit transformés. Mais moi, je voudrais souligner, je reviens sur ce problème du prosélytisme, là où on va avoir des problèmes en tant que croyant, moi je pense dans les années à venir, c'est quand on va vouloir témoigner de notre front, ou dans certains pays. Mais je crois que ces choses, elles vont monter aussi dans notre société. On va nous dire, il ne faut pas déranger les uns, il ne faut pas déranger les autres, il ne faut pas aller, il ne faut pas donner l'idée. Et de plus en plus, je ne sais pas, nous on a une vision très dynamique de l'évangélisation dans nos assemblées. Il y a quelques années, on allait frapper à la porte des mairies en disant on aimerait avoir une salle municipale pour une mission, pour une semaine de conférences, etc., où on prêche l'évangile. Mairie communiste ou pas communiste ou n'importe quoi, il y a 20 ans, on avait des salles tant qu'on voulait, comme on voulait. Maintenant, même en payant, en disant on paye, on nous dit non. Voyez. Et je sens pour ma part de plus en plus une pression pour nous dire restez entre vos quatre murs. Restez en vos quatre murs.
Voilà, ça c'est la pression aussi. Ouais.
Vous avez parlé de l'institution des autorités sur les pays comme venant de Dieu un petit peu, hein, comme Dieu qui serait derrière tout ça. Est-ce que pour le coup, là, on ne serait pas plutôt dans des choix humains? Parce que, voilà, moi... Quelle part, est-ce que ça ne serait pas du César, ça, finalement? Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de dire, ben voilà, tel despote, il est là parce que Dieu l'a institué? Enfin, moi, c'est, voilà,
moi, c'est quelque chose qui me trouble. Mais quand on voit ce dialogue, hein, entre Nebuchadnezzar, c'était pas, excusez-moi, je suis un peu familier des fois, c'était pas un cadeau, Nebuchadnezzar. Et pourtant, Dieu lui dit, mais si tu es là, c'est moi qui t'ai mis. Et on voit aussi quelquefois que Dieu a suscité des despotes pour, entre guillemets, pour envahir son peuple. Alors on peut dire, il leur a permis, mais je veux dire, souvent on prend ce passage, on dit Dieu permet. Rien ne nous arrive que Dieu ne le permette, mais littéralement c'est que Dieu ne le veuille, quoi. Et il y a des choses qui sont troublantes pour moi. Ça, j'avoue, c'est quelque chose qui me trouble, quoi. Mais ça fait partie peut-être d'un ordre historique que Dieu. J'ai toujours été. J'aime ce texte du livre d'Esther, où on voit comme une partie d'échecs. Je ne suis pas un joueur d'échecs, mais quand je regarde les joueurs d'échecs, et j'ai un ami qui jouait aux dames, il plaçait, moi je lui mangeais un pion, je lui mangeais deux pions, je lui mangeais trois pions, lui il bougeait les siens, moi j'étais tout content, puis tout d'un coup avec un pion, tout, j'avais plus rien sur la table, moi. Et dans ce livre d'Esther, on voit ça, quoi. Et on voit Dieu qui laisse faire des mauvais coups à Haman, qui laisse faire des mauvais coups à tout le monde, et qui, au moment, il déplace son pion, Esther, Mardoché ou quoi, puis c'est échec et mat, quoi. Et je me dis que dans notre société, il y a des choses que Dieu permet, que Dieu laisse faire, parce qu'elles sont dans le plan qu'il a tracé, dans l'histoire de l'humanité qu'il a tracé, quoi. L'Antichrist, Dieu il en parle, quoi, il annonce.
C'est pas pour provoquer notre réaction, à ce moment-là. Nous, on réagit, on résiste, on proteste.
Ouais. Mais je pense qu'on doit être amené à ça. Là, c'est comme disait tout à l'heure l'ami tout à l'heure, on est amené à faire des choix aussi. Toutes ces choses nous amènent à faire des choix, accepter accepter l'inacceptable, accepter ces choses ou résister et dire non, même par rapport à ces pouvoirs qui sont despotiques. Tout nous amène à des prises de position, quoi. Mais néanmoins, il y a des textes qui sont clairs, quoi.
Au-delà de la prise de réaction, c'est peut-être de provoquer une action. Parce que réaction, ça
n'avance
pas plus que...
Oui. le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît, quoi. C'est quelque chose de surprenant, mais... Voilà, je vais faire tout
ça. À propos de la relation avec l'argent, une société laïque peut être envahie par le culte de l'argent, exactement comme une société sacrée. Comment est-ce qu'il faut interpréter la relation Dieu et César par rapport à l'argent?
Jésus l'a dit, payez l'impôt à qui vous devez l'impôt. À César, on doit, voilà. Et je crois que c'est, je prendrais dans le sens aussi de la Genèse, je te rends l'argent. De toute façon, pour moi, l'argent, c'est pas l'essentiel. Je préfère être riche et en bonne santé, Seigneur bénis-moi, ça c'est vrai, mais Paul il dit, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais vivre aussi dans la disette. Et moi je dis toujours, je préfère vivre dans un château, si on me demande de ne pas faire le ménage, que dans une tente. Hein? Bon, mais Paul il est capable de vivre les deux. Donc il y a un détachement par rapport à cet argent-là dans la société civile. Le chrétien doit être détaché, je rends ça à César. C'est pas de ça que dépend mon bonheur. Par contre aussi, il y a un autre épisode où Jésus rentre dans une ville, et puis on pose la question à Pierre, on dit, mais ton maître, il paye pas l'impôt? Et là, il est question de l'impôt sur le temple, l'impôt du temple. Hein, et c'est là que Pierre va chercher un poisson et qu'il y a une pièce d'argent dans la bouche du poisson, et ça va servir à payer l'impôt du temple pour Pierre et pour Jésus. Jésus aussi montre qu'il rend, que même notre argent, Dieu en a sa part à Abraham. Tout à l'heure, il a rendu la dîme. Hein. Mais il a rendu la dîme de quoi? Il a rendu la dîme de tout ce qui lui appartenait, que les autres lui avaient volé. Quoi, hein. C'est pas la dîme de quelque chose qu'il a compte. Il a vraiment rendu les choses, et je crois que dans ce rapport aussi avec l'argent, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'être généreux avec les choses de Dieu. Hein. Je reçois le bulletin de l'Église réformée, et je vois que régulièrement, vous êtes comme nous, vous relancez un peu, hein, vous dites, voilà, Seigneur, on en a besoin aussi pour faire tes œuvres.
Plus fort. Il y a quelque chose qui m'a surpris, vous avez parlé du millénium. Du millénium.
Ouais.
Du millénium. Bon, alors, vous avez dit que le millénium, c'est quand le Seigneur va revenir. Le millénium, c'est
ouais,
quoi
ouais.
C'est quand le Seigneur va revenir.
Oui, oui.
Bon, et alors, il faut, donc, c'est dans l'Apocalypse, hein, il ne faut pas vivre dans le monde. Dans le monde, mais vivre différemment.
C'est pas du tout.
Mais alors, il faut proclamer la parole sans dire qu'elle est de Dieu. Ah. Alors ça...
Non.
Comment voulez-vous, moi le millénium, je l'avais jamais entendu parler, mais avant que j'en ai ici.
Ah bon. Non, ce que je veux dire, c'est quand te parler sans parler, parce que des fois on est donneur de leçons par rapport aux autres. Dans notre société, moi j'écoute, il y a des prises de position actuellement, on parle beaucoup d'euthanasie, on parle beaucoup de foulard, de choses comme ça, et on a le mot Dieu toujours à la bouche. Et ce mot Dieu, finalement, quand on l'emploie trop, il va produire un effet inverse. Il y a des gens, on va leur parler des valeurs en disant, voilà, dans la Bible il est écrit ceci, la Bible dit cela, Dieu dit ceci, mais ils n'ont pas le même socle de valeurs que nous. Donc moi je préfère leur parler de ces valeurs, leur parler de ces choses qui sont, de ces valeurs de respect de la vie, etc. Et au moment, on va se trouver d'accord. Et on va se dire, mais c'est vrai, tu as raison. Dans nos discussions, la personne va dire, mais tu as raison, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai déjà pensé, c'est vrai. Et c'est là qu'on va lui dire, ben, tu vois ce qu'on vient de dire. Eh bien, c'est écrit dans la Bible. Ouais, c'est une autre démarche. C'est une autre approche. C'est pas d'aller vers les gens en disant, la Bible dit, boum, c'est ce qu'on voit. Hein, les gens disent, dans ma religion, il est dit ceci, dans ma religion, il est dit cela. Parlons des valeurs, parlons de ces bonnes choses. Après les gens, la loi elle est aussi là, et quelque part la raison est là, ils vont dire, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Et là, comme je le répète, on va les amener à dire, mais tu vois ce qu'on vient de dire, c'est écrit, regarde, d'ailleurs c'est écrit à tel endroit. Ce que je te dis, c'est écrit là. Et je crois que c'est une bonne approche dans le cadre du témoignage qu'on va apporter dans notre société. Vous savez, on parle beaucoup de promouvoir les valeurs chrétiennes. Mais quand on parle de promouvoir les valeurs chrétiennes, il y a les baïonnettes qui se lèvent. Les baïonnettes de la révolution. C'est la sainte laïcité est là. Mais si on parle si on n'emploie pas le mot valeur chrétienne, mais qu'on dit nos convictions de respect de la vie, d'amour de la vie, de toutes ces choses, on se place sur un autre plan, on se place plus sur un plan de religion où il y a une opposition entre ceux qui sont dans le camp de César et ceux qui sont dans le camp de Dieu où c'est la bagarre, mais on se place sur un plan de vie morale qui est notre socle commun, qui est commun à chacun d'entre nous. On a des règles de vie les uns avec les autres, dans toutes les sociétés, et c'est normal. Hein? Donc je crois que dans notre société aujourd'hui, la laïcité s'oppose beaucoup à la croyance, mais je crois que du côté des croyants, parfois, des fois, on manque de sagesse. On manque de sagesse. Parce que nos valeurs, on peut les faire passer simplement parce qu'elles sont bonnes, qu'on n'a pas besoin de mettre Dieu dessus, ou la Bible, parce que ça, c'est valable pour nous. Ça, c'est valable pour nous, parce qu'on y croit. Mais quelqu'un qui sort de l'islam, du bouddhisme, ou d'ailleurs, la Bible, c'est quoi? C'est rien. Par contre, on va se retrouver d'accord sur des valeurs dont témoigne la Bible, parce qu'elles sont universelles, parce qu'elles sont, elles sont là, quoi. C'est dans ce sens-là, je voulais dire que...
Ce que vous dites, c'est peut-être là, justement, le secret du dialogue avec d'autres gens, de d'autres religions.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
On a des choses communes.
Oui.
Qui sont dans notre cœur, que Dieu a mis.
Des valeurs communes qui sont dans le cœur de tous les hommes, même des incroyants, plus ou moins, hein, puisque la Bible nous dit, il y en a, ils se défendent, hein, parce que c'est dans la conscience. Donc il y a des choses, on va les faire rejaillir de la conscience. Moi, il y a des choses, je les ai découvertes, je les ai redécouvertes en lisant la Bible, des valeurs. Il y en a d'autres, elles étaient là, à cause de mon éducation. Mes parents m'ont éduqué, m'ont donné des valeurs. Ils n'étaient pas chrétiens, mes parents. Moi, je suis jamais allé dans une église catholique, hein, jusqu'à l'âge de 10 ans. Première fois, 10 ans, je suis rentré dans une église évangélique. Aucune éducation religieuse, une éducation révolutionnaire, ouais, revendicatrice, ouvrière, oui, mais avec les valeurs qu'on a dans des gens qui travaillent avec leurs mains, des gens qui sortent de la campagne, de la montagne, les valeurs qui sont les leurs, mes parents nous les ont transmises. Et il y avait vraiment des bonnes choses, mais qui sont bibliques. Hein, moi, je crois dans les racines chrétiennes de notre société aussi, hein. Je veux dire, il y a une influence qui est là. Mais ces choses, on les a en nous et on peut en parler avec les gens. Mais sans s'opposer, sans rentrer dans un combat Dieu, Dieu, Dieu contre. Je crois, rendre à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il n'y a pas d'opposition dans César et Dieu, vous voyez. Et je crois que l'adversaire cherche à nous opposer. Parce que quand il y a de l'opposition, de la bagarre, il n'y a plus de dialogue. C'est un mur qui se dresse. On tire les rideaux quand c'est comme ça.
Ces valeurs communes dont vous parlez, finalement, qu'on retrouve partout chez tout le monde, ça serait la preuve que l'être humain est vraiment d'origine divine.
Moi, je le crois. Hein.
C'est vraiment la preuve, ça.
Puis, on est une société, pour vivre en société, on est obligé d'avoir des règles. Et moi, je vous invite à relisez les 10 commandements en pensant à la vie. Je trouve que tout tourne autour de la vie dans les 10 commandements. Le respect de Dieu qui donne la vie, le respect de tes parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te donnent la vie, c'est eux qui accompagnent ta jeune vie. Tu ne tues pas, ben prends pas la vie de l'autre. Ne vole pas, c'est ne prends pas les moyens de subsistance de l'autre. Si dans la montagne là-bas où il fait froid, tu prends la doudoune de celui qui couche dehors, tu vas le faire mourir. Ne lui prends pas ses moyens qui vont maintenir sa vie. Ne le calomnie pas, tu vas lui gâcher la vie moralement. Ne convoite pas son bien, sa femme, tu vas lui gâcher la vie, tu vas lui enlever tout ce qui rend sa vie agréable et belle. Tout tourne autour de la vie. Ouais. Et nous, on est des êtres vivants et on aime la vie, et même si on n'a pas des valeurs croyantes chrétiennes, eh bien, ces choses, elles sont au fond de nous quand même. Un jour, j'ai été surpris, un pasteur qui est aumônier, il y a deux garçons qui viennent, et il y en a un qui dit, « Pasteur, je vais te poser une question. » Mon copain, on n'est pas d'accord. Il dit, est-ce que voler, c'est bien? Et le pasteur, il dit, non, c'est pas bien de voler. Et l'autre, il dit à son copain, tu vois, je te l'avais bien dit. C'est surprenant, ça, parce que pour nous, c'est évident. Mais eux, ils venaient d'un type de... Ils avaient un type de rapport, si vous voulez. Moi, j'ai compris ça, c'est un peu comme dans les tribus indiennes. Hein. Dans les tribus indiennes, ils appellent les autres. Eux, ils s'appellent les hommes. En général, le nom que se donne une tribu, dans son langage, ça veut dire les êtres humains. Ce qui veut dire que les autres, c'est pas, ils ont deux pattes, mais ce n'est pas des êtres humains. Donc à partir de là, c'est comme le bison, c'est comme l'animal. On peut aller sur la bête. Hein, et encore dans notre société, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ne se volent pas entre eux. C'est inconcevable de se voler entre soi. Il faut se respecter, il y a des règles. Mais par contre, par rapport aux autres êtres humains, Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de problème. Alors des fois c'est comme ça, mais c'est quand même des respects. Je vous laisse ça.
Encore une question ?
Oui, c'est vrai, pour les commandants. Ceci étant dit, il faut quand même une fois voir dans le concret. C'est Augustin qui disait que quelqu'un qui vole parce qu'il a faim, on ne peut pas considérer ça comme un vol. Il ne faut pas généraliser, à mon avis. Il faut rentrer dans le concret.
Oui, c'est ce qu'il a dit. La vie, c'est la vie et il faut vivre. Donc merci à Didier qui nous a bien gâté pour la dernière étude biblique de cette semaine. Merci à vous tous. Merci encore à l'équipe qui organise ces repas depuis lundi et qui est en grande partie. Voilà, c'est un gros travail de gestion, mais qui marche parfaitement. Merci à eux. Donc je rappelle qu'il y aura un culte dimanche pour les familles et que maintenant, place au dessert et au café.
Merci à toi. C'est pas évident, hein, c'est un sujet... C'est vaste, le pavillon, alors c'est...
Vous savez, c'est choisi par la vision de la littérature,
c'est tellement vaste.